Le journal Bibi Mkonkole. Le calme semble revenir depuis ce matin dans le groupement de Jomba, dans la province du Nord Kivu. La région autour de Bougoussa est sous contrôle des FARDC, les éléments de M23 ayant été chassés. En Ituri, résolution des conflits fonciers qui divisaient des clans Emma du territoire de Djougou. Un accord a été conclu sur cette question, les précisions dans un instant. Et puis à l'Équateur, le ministre provincial de l'Environnement et Conservation de la Nature autorise l'ouverture de la chasse dans les forêts de la province. Seulement, les candidats à cette activité devraient remplir certaines conditions. Les détails dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. Rendons-nous au Nord Kivu pour commencer. Un calme apparent règne ce matin sur la ligne des fronts entre les FARDC et les rebelles de M23 dans le groupement de Jomba. C'est à plus de 90 km au nord de Goma, en territoire de Rutshuru. Selon les sources sur place, les FARDC ont repris le contrôle de toute la région autour de leur position de Bougoussa, en partie sud du groupement, après y avoir délogé les éléments de M23. Seulement, plusieurs localités de la région en groupement Jomba, Bouéza et même Boussanza sont restés déserts après ces combats qui ont duré toute la journée d'hier. Bernardin Nyangui pour les détails.
C'est pratiquement depuis 4h du matin ce dimanche que les tirs ont cessé dans la région de Jomba, indiquent les sources de la société civile locale. Pour ces sources corroborées par certaines autorités administratives locales à Jomba, après que les FARDC ont repris le contrôle des localités de Jomba, Tchengerero et leur position sur la colline Bougoussa, ils ont poursuivi les mutins qu'ils auraient délogés sur les collines Gatete et Mbunzi, que ces derniers contrôlaient depuis le 12 mai dernier. Sans avoir plus de précisions sur le bilan, nos sources civiles parlent de plusieurs blessés et d'au moins 2 morts côté FARDC, en mentionnant que les M23 auraient aussi connu une très lourde perte d'hommes. Aucune déclaration n'a été faite par les responsables militaires, malgré tous nos efforts de les contacter sur la question. Pour l'instant, au moins 3/4 d'habitants de 8 localités du groupement Jomba sont en fuite, les uns vers l'Ouganda, les autres vers Rutshuru centre. Ce déplacement massif des populations a aussi touché le groupement voisin de Bouéza et Boussanza. Goma, Bernard Nyangui, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, les députés provinciaux de cette province, appelés à privilégier la paix et le rapprochement communautaire dans leur communication avec la population. C'est l'essentiel de la recommandation donnée par le ministre congolais de l'Intérieur hier samedi à Goma aux députés provinciaux du Nord Kivu. Richard Mouyège a fait cette communication lors d'une rencontre qu'il a eue avec les élus du peuple du Nord Kivu. C'était à son retour de Kigali où il venait de prendre part à la 5e session ministérielle sur la coopération bilatérale entre la RDC et la République du Rwanda. Pour l'honorable Jaribu Muliwayo, député provincial élu de Beni, un des participants, l'objectif du ministre était d'impliquer les députés provinciaux dans la démarche convenue entre la RDC et le Rwanda pour le retour de la paix dans cette région. Puisque nous parlons coopération entre le Rwanda et la RDC, sachez que le mandat de la commission conjointe de renseignement convenue entre les ministres rwandais et congolais de la Défense le 14 mai dernier sera étendu à la vérification conjointe de la situation sécuritaire le long de la frontière et à l'intérieur des deux pays. C'est l'une des grandes résolutions de la 5e session de la commission mixte de coopération entre la RDC et le Rwanda, clôturée hier samedi à Kigali. De Goma, Bernardin Nyangui nous donne les détails.
Dans les 10 prochains jours, les hauts responsables des services des renseignements des deux pays présenteront un plan concerté pour les opérations contre les FDLR. Ils mettront sur pied, pendant le même délai, un mécanisme de prévention de toute action nuisible aux bonnes relations et à la sécurité des deux États, indique le communiqué final de cette session qui a été lu par l'ambassadeur Ben Rutinga, directeur général bilatéral et multilatéral du Rwanda. Dans son mot de clôture, Raymond Tshibanda, ministre congolais des Affaires extérieures, a indiqué que la mission donnée à la commission mixte par les chefs des deux États, qui est d'entretenir des relations de coopération pour établir la paix, stabiliser la région et susciter le développement, affiche jusque-là un bilan positif. Signalons que 5 ministres congolais ont pris part à ces assises. Il s'agit des ministres des Affaires étrangères, de la Défense et des Transports, de la Justice et celui de l'Énergie. La 6e session de la Grande Commission mixte de coopération bilatérale entre la RDC et la République du Rwanda a été fixée à mai 2013 à Kinshasa, en RDC. Goma, Bernardin Yangi, Radio Okapi.
En Ituri, un compromis a été trouvé hier samedi sur le conflit de terres qui divisait depuis plusieurs années certaines chefferies des Baïma du territoire de Djougou. Il s'agit du dossier relatif à la répartition des portions de terrain dans la localité de Berunda, située à 250 km au nord de Bounia, entre plusieurs clans Ema. Les chefs coutumiers des Baïma Nord ainsi que des notables s'opposaient jusque-là à l'arrivée sur ce site sans préalable des clans issus de la chefferie des Baïma Baniwagi. Les détails avec Jean-Claude Loki.
Ce compromis est une retombée de la rencontre organisée hier par les autorités du district. Cette rencontre fait suite au mouvement non contrôlé des éleveurs en provenance de différentes localités avec leur bétail vers les collines de Berunda. La communauté Nyuagi, par exemple, a eu à occuper la colline Lingbiti, cela sans aviser les chefs coutumiers locaux. Démarche qui n'avait pas plu aux notables Ema qui accusaient leurs frères des Baïma Baniwagi de violer les procédures. Et pour les chefs coutumiers des Baïma Baniwagi, ils ont taquiné une de ces collines entre 1957 et 1958. Face à la tension qui s'observait, le comité de sécurité du district a dû se rendre à Berunda en vue de s'enquérir de la situation. Et hier vendredi, lors de la rencontre, les participants ont reconnu que 4 collectivités détiennent effectivement des collines dans cette entité de Berunda. Il s'agit des chefferies des Bagourou, des Badiré, des Baniwagi ainsi que de Baïma Nord. Le chef du groupement Ngazba à Berunda, gardien de ces collines, a proposé à ce que toutes les parties organisent une descente sur le lieu afin d'identifier ces collines avec carte à l'appui. La clôture de ces assises a été sanctionnée par la signature d'une déclaration finale. Bounia, Jean-Claude Loki, Radio Okapi.
Cinquième jour de l'ouverture de la chasse dans la province de l'Équateur, une décision du ministre provincial de l'Environnement, Conservation de la Nature. Selon Joachim Abokouma, elle est conforme à la réglementation de la chasse en RDC. La chasse est ouverte, mais il faut d'abord obtenir un permis de chasse, comme nous le précise Adrienne Kissita.
Les chasseurs doivent obtenir les différents types de permis de chasse auprès des services de l'environnement et conservation de la nature moyennant paiement des taxes prévues par la loi. Selon le ministre provincial de l'environnement et conservation de la nature, c'est pour leur permettre d'exercer librement leur métier. Joachim Agbokouma parle de 7 permis de chasse. Il s'agit de permis sportifs de petite chasse, permis sportifs de grande chasse, petit permis de tourisme. Il s'agit également de permis rural de chasse, permis collectif de chasse, permis administratif de chasse. Les chasseurs se plaignent de la multiplicité des taxes et du coût de l'octroi de ces permis qui est exorbitant par rapport à leur pouvoir d'achat. Tous les efforts fournis pour connaître les coûts de ces permis auprès des services compétents sont restés vains. Pour rappel, chaque année, le ministère provincial de l'environnement et conservation de la nature interdit la chasse au gibier, surtout pendant la saison sèche, pour permettre à certaines espèces de se reproduire. Bandaka, Adrien Kissita, Radio Mwinda pour Radio Kapi.
Les magistrats et avocats de Mbujimayi sont appelés à dire la justice selon la conscience et à ne pas se laisser asservir par l'argent. Cette exhortation est de l'évêque du diocèse de Mbujimayi. Il l'a faite hier samedi au corps judiciaire de Mbujimayi à l'occasion de la fête de Saint-Yves, le patron des juristes. De leur côté, les juristes prennent l'engagement d'être plus attentifs aux opprimés et aux faibles. Chris Mukande pour les précisions.
Tout commence par une célébration eucharistique dirigée par Mgr Emmanuel Bernard Kassanda dans la chapelle de sa résidence privée. Les magistrats, avocats et défenseurs judiciaires, principalement catholiques, répondent à l'invitation. Le message du prélat est simple.
Cessez de vous laisser asservir par les oppresseurs, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent. Ne suivez pas l'argent, ne suivez pas d'abord ceux qui ont le pouvoir et les moyens, mais rendez justice et dites le droit tel que votre conscience et votre âme vous le dit. Alors à ce moment-là, vous pouvez rendre justice selon les cœurs de Dieu. Ces corps judiciaires n'ont pas à se laisser asservir par l'argent, même si les temps sont durs. Parce que c'est ce que l'on voit. Ça laisse de l'amertume dans les cœurs de ces pauvres qui se voient spoliés et parfois ils pas écoutés parce que la justice a été mal rendue à cause de ceux qui ont dû avoir des pots de vin. Ça, je ne veux pas.
Message bien reçu. La confirmation est de Léon Kouminga, procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Mbujimayi.
À l'occasion de la fête de Saint-Yves, le patron des juristes, magistrats et avocats, nous voulons suivre son modèle pour être un peu plus juste dans l'exercice de notre profession, selon le cas.
Dans la soirée, un banquet a été offert aux convives de l'évêque du diocèse d'Mbujimayi, ce qui a sûrement aidé les juristes à oublier pour quelque temps la tension qui les a opposés au cours de la semaine à l'occasion de l'arrestation d'un avocat. Bougimaï, Chris Mukonde, Radio Capi.
Clôturons ce journal au Kassai Occidental. L'orphelinat des Sœurs de Charité de la Mission catholique Mikalaï dispose depuis hier samedi d'une unité de production pour son autosuffisance. Il s'agit de deux moulins, dont de la MONUSCO. Un reportage de Pascal Quinconté.
Ces moulins rentrent dans le cadre du projet à impact rapide de la MONUSCO. La mission des Nations Unies a pour cela déboursé 9 000 $ sur un total de 10 180 $, le reste provenant de la Caritas Développement Kananga. Pour les chefs des bureaux de la MONUSCO, ce projet a une signification particulière dans la mesure où il est destiné aux jeunes vulnérables sur qui repose l'avenir du pays. Pour sa part, la directrice de l'orphelinat, qui a salué cet appui, a indiqué que son office s'occupe de 130 orphelins, dont une trentaine sont internés et les autres sont dans différentes communautés catholiques. Notons que l'orphelinat de Mikalaï a été créé en 1946 par les sœurs hollandaises pour s'occuper des enfants laissés par les mamans qui mouraient à l'accouchement. Depuis 1988, cet office vole de ses propres ailes à travers 1000 difficultés. De Kananga, Pascal Kankonde, Radio Kapi.
C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention.
Oh, Capi. Oh, Capi, yeah.